Chapitre 7 Convergence.
C'est fini. Je vais être obligé de te faire un trou dans l'oreille, ça ne te dérange pas?
Après tout ce que tu as fait, je ne le remarquerai même pas.
Je peux toucher d'abord.
Ambre déposa la grande boucle d'oreille dans la paume de Parangon.
Voilà. Tu sais, tu n'as qu'à ouvrir les yeux et regarder. Tu n'as plus besoin de te servir du toucher maintenant.
Pas encore, répondit Parangon.
Il aurait préféré qu'elle n'en parle pas. Il ne pouvait lui expliquer au juste pourquoi il n'ouvrait pas encore les yeux. Il saurait quand le moment serait venu. Il soupesa la boucle d'oreille et sourit, savourant les nouvelles sensations de son visage.
C'est comme un filet sculpté avec des mailles en bois et une bosse au milieu. Ta description est trop flatteuse, fit remarquer sèchement Ambre. C'est censé être une résille en argent avec une pierre fine bleue incrustée. Elle fait la paire avec celle que je porte. Je suis sur la lisse. Tiens-moi que je puisse atteindre ton lobe d'oreille.
Il tendit sa paume en guise de plateforme et elle y grimpa sans la moindre hésitation. Il la tint contre son oreille et ne broncha pas quand elle perça le lobe avec une vrille. La reconstruction du visage n'avait pas été douloureuse au sens où l'entendent les humains. Ambre s'appuyait contre sa joue en travaillant, en se raidissant contre le choc quand il fendait la lame. Le petit fragment passé dans son oreille le picotait étrangement. Des copeaux de bois sorcier tombaient en pluie fine qu'elle recueillait dans un tablier de toile. Il les avalait à la fin de la journée de travail. Il n'avait perdu aucun de ses souvenirs. Il ne les fuyait plus. Mère passait une partie du temps, chaque jour, sur le gaillard d'avant, avec son journal de bord. Quand il pleuvait, elle s'abritait sous un pan de toile. Il ne comprenait pas ses bredouillements, mais peu importait. Assise sur le pont, adossée à la lisse, elle lisait. À travers elle, les anciens souvenirs s'infiltraient en lui. Dans ses registres, au fil des années, ses capitaines avaient noté succinctement leurs observations. Peu importait. Les notes étaient les pierres de touche sur lesquelles il essayait ses propres souvenirs. La vrille perça complètement le lobe. Ambre la retira et, après quelques tâtonnements, elle accrocha la boucle à son oreille. Elle ajusta le fermoir. Puis, elle s'écarta pendant qu'il absorbait les copeaux de bois. Il tira sur la boucle pour éprouver sa solidité, puis secoua la tête pour s'habituer au poids qui pendait.
« J'aime bien. Je m'en suis bien tiré. »« Ah, moi aussi !»
Ambre soupira avec satisfaction.
« Et tu t'en es parfaitement tiré. C'est passé du gris au vermeil, et maintenant ça brille tellement que je peux à peine regarder. La pierre scintille entre les mailles et lance des éclairs bleus et argent, comme la mer au soleil. Si tu pouvais voir ça !»«
Ça viendra. »
« Eh bien, tu es complet. À part quelques petites retouches, je vais prendre mon temps pour fignoler. »
Elle promena ses mains nues sur le visage de la figure de proue. C'était un geste singulier qu'elle faisait moitié par affection, moitié pour détecter les légers défauts de son travail. Aussitôt après leur départ de l'île de la Clé, Ambre était montée sur le gaillard d'avant. Elle avait déposé avec fracas sa caisse à outils. Puis, sans plus de façon, elle s'était encordée au garde-corps et avait escaladé le bord. En fredonnant, elle avait pris les mesures du visage, marqué des repères au charbon de bois. Mère s'était approchée et avait bredouillé des sons interrogateurs.
« Je vais réparer ses yeux et modifier son visage comme il me l'a demandé. Il y a un croquis ici sous le maillet. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. »
Comme une araignée, Ambre avait parcouru sa poitrine en ménageant ses brûlures. Il avait tendu les mains sous elle d'un geste protecteur. Quand Mère revint à la lisse, elle émit des sons approbateurs. Et dès lors, elle avait assisté à la plus grande partie du travail, ce qui exigeait un certain dévouement car Ambre avait œuvré presque jour et nuit. Elle avait commencé à la scie et au ciseau, entaillé de grandes portions du visage, sur les sourcils et même sur le nez,
et elle avait enlevé la barbe. Puis, elle s'était attaquée à la poitrine et aux avant-bras.
« Pour respecter les proportions, » avait-elle expliqué.
En tâtonnant, Parangon avait senti la grossière esquisse de ses traits qui n'avaient pas tardé à se transformer, car elle travaillait avec une ferveur telle qu'il n'en avait jamais connue. Ni le vent ni la pluie ne la décourageaient. Quand la lumière du jour lui faisait défaut, elle suspendait des lanternes et continuait sa besogne, plus au toucher qu'à la vue, selon lui. Une fois, alors que Brachen lui déconseillait de veiller jusqu'à ses heures indues, elle avait répondu que ce travail était plus salutaire à son âme que le sommeil. Ses plaies qui cicatrisaient ne la ralentissaient pas. Elle faisait volter ses outils sur la face de Parangon, mais aussi ses mains. Il n'avait jamais senti un toucher pareil à celui d'Ambre. D'une pression du bout des doigts, elle lissait une ride. D'un frottement, elle abrasait un endroit rugueux. À présent, elle découvrait une aspérité, elle tapotait et frottait le grain du bois qui s'aplanissait en picotant Parangon.
« Tu l'aimais, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr que oui. Maintenant, arrête de me poser des questions là-dessus. »
Parfois, il pouvait sentir l'affection qu'elle éprouvait pour ce visage sur lequel elle travaillait. Il était imberbe désormais, et juvénile. Ce qui correspondait mieux à sa voix et à sa personnalité telle qu'il la connaissait, mais il mourait de curiosité, sachant qu'il avait le visage de quelqu'un qu'Ambre avait aimé. Elle ne voulait pas parler de lui, mais parfois, sous ses doigts, il avait la vision fugitive de l'homme qu'elle voyait en esprit.
« Maintenant, je suis composé de plusieurs couches comme un oignon, »
fit-il observer alors qu'il la portait au-dessus du garde-corps.
« Dragon et dragon. Dessous Parangon Lutchance, dessous quelqu'un d'autre. Tu me donneras son nom aussi ?»«
Parangon te va mieux que tous les autres noms. Dragon et dragon ?»
demanda-t-elle à mi-voix.
« Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu »
dit-il avec un sourire hilar. Sa dérobade polie traduisait bien sa pensée. Ces dragons, c'était son affaire, tout comme l'identité de l'homme dont il avait le visage était l'affaire d'Ambre. Brachen avait gagné le gaillard d'avant. Ambre descendit du garde-corps et il lui rappela sévèrement
« Je n'aime pas que vous grimpiez là-haut sans être encordé. À la vitesse où nous allons, le temps que nous découvrions que vous avez disparu, il serait trop tard. »
« Tu as toujours peur que je la laisse tomber sans qu'on s'en aperçoive, Brachen ?»
demanda gravement Parangon. Brachen regarda les yeux fermés du navire. Parangon attendait la réponse du capitaine. Son front juvénile était lisse, serein. Après un silence, bref mais très embarrassé, Brachen trouva les mots.
« Le devoir d'un capitaine, c'est d'envisager toutes les éventualités, navire. »
Et il changea de sujet en s'adressant à Ambre.
Alors, jolie la boucle d'oreille. Vous avez presque terminé?
J'ai terminé, à part un petit ponçage.
Elle eut une moue pensive.
Et je ferai peut-être quelques ornementations sur les habits.
Brachen se pencha sur le garde-corps. Il parcourut d'un œil critique toute la figure de proue. Elle avait accompli un travail étonnant en un si bref laps de temps. À en juger par ses innombrables croquis, elle devait avoir réfléchi à cette transformation depuis leur départ de Terrilleville. En plus de la boucle d'oreille, elle avait façonné avec les fragments de bois sorcier extraits du visage un grand bracelet en cuivre à son poignet et un harnais de combat en cuir chevillé à la poitrine. Une hache à manches courts y pendait.
« Il est beau !»
dit Brachen. Qui ajouta en baissant la voix,
« Vous lui avez arrangé le nez ?»«
Il est très bien son nez, »
affirma Ambre sur un ton d'avertissement.
«
Brachen considéra le contour déformé.
« Eh bien, il faut sans doute qu'un marin ait une ou deux cicatrices, et le nez cassé lui donne un air très déterminé. Pourquoi la hache ?»«
J'avais du bois en trop. »
répondit Ambre presque évasivement.
« C'est seulement ornemental. Il lui a donné les couleurs d'une arme véritable, mais cela reste du bois sorcier. »
Mère émit un bruit d'assentiment.
Elle était assise, jambes croisées, un registre ouvert dans son giron. On avait l'impression qu'elle était toujours là, à marmotter. Elle lisait le journal de bord avec la même dévotion que certains avaient pour les commandements de ça.
« Avec ça, il est parfait !»
approuva Ambre, très satisfaite. Elle enfila ses gants et commença à rassembler ses outils.
« Et je suis fatiguée tout d'un coup. »«
Ça ne m'étonne pas. Allez dormir un peu, puis vous viendrez me voir dans ma chambre. Nous approchons de partage. Je voudrais qu'on discute de la stratégie à adopter. »
Ambre eut un sourire forcé.
« Je croyais qu'on était d'accord pour n'avoir aucune stratégie, sauf aller à partage et faire savoir qu'on veut échanger la mère de Kenith contre Althea. »
Les yeux brillants, Mère suivait la conversation. Elle approuvait d'un hochement de tête.
« Et vous ne voyez aucun point faible à ce plan? Par exemple, toute la ville qui se dresserait contre nous et la prendrait pour gagner les bonnes grâces de Kenith ?»
Mère secoua la tête. Ses gestes indiquaient qu'elle s'y opposerait.
« Oh, ça! Eh bien, tout le plan est tellement criblé de points faibles qu'un de cette ampleur paraît trop évident pour qu'on le mentionne, »
répondit Ambre avec légèreté.
Brashen fronça les sourcils. « Nous jouons la vie d'Althea. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi, Ambre. »«
Pour moi non plus, »
se hâta de répondre le charpentier du navire.
« Je sais que vous êtes mort d'inquiétude et à juste titre. Mais y penser sans cesse avec vous ne diminuera pas votre angoisse. Nous devons plutôt nous concentrer sur nos espoirs. Si nous ne nous ancrons pas dans la certitude du succès, alors nous sommes déjà battus. »
Elle mit son sac à outils sur l'épaule, puis inclina la tête et le regarda avec compassion.
« J'ignore si cela vous convaincra, Brashen. Mais il y a quelque chose que je sais, au plus profond de moi. Je reverrai Althea. Viendra un temps où nous serons tous réunis. Au-delà, je ne vois rien, mais de cela, au moins, je suis sûr. »
Les yeux étranges d'Ambre avaient pris une expression rêveuse. Leur couleur semblait virer de l'or sombre au brun léger. Brashen en eut un frisson dans le dos. Pourtant, il en fut singulièrement réconforté. S'il ne pouvait partager son calme, il ne doutait pas d'elle.
« Voilà, vous voyez, votre foi est plus forte que vos doutes. »
Elle lui sourit. D'une voix moins mystique, elle demanda
« Kyle vous a-t-il appris quelque chose d'utile ?»
Brashen secoua la tête avec amertume. Ça me fatigue de l'écouter. 100 fois, il a raconté en détail la trahison de Vivacia et de Yema. C'est la seule chose dont il parle volontiers. Je crois qu'il n'a pas cessé de revivre tout cela durant sa détention dans la cave. Il ne dit que du mal d'eux. J'ai plus de peine à garder mon sang-froid quand il prétend qu'Althea n'a pas volé ce qui lui arrive et qu'on devrait la laisser se débrouiller. Il insiste pour qu'on rentre sur l'heure à Terrilville. Qu'on oublie Althea, son fils, le navire familial, tout. Et quand je refuse, il me maudit. La dernière fois, il a demandé sournoisement si Althea et moi, nous n'étions pas en cheville avec Yémin depuis le début. Il insinue qu'on a tous comploté contre lui.
Brashen secoua la tête, amère.
Vous avez entendu son récit. Yémin lui a pris le navire uniquement pour le donner à Kenith. Est-ce que ça vous paraît plausible?
Ambre haussa imperceptiblement les épaules.
« Je ne connais pas Yémin, mais je sais une chose. Quand les circonstances s'y prêtent, les gens qui ne semblent pas y être destinés accomplissent des choses extraordinaires. Quand le poids du monde est derrière eux, la poussée des événements et le temps lui-même coïncident pour que se produise l'invraisemblable. Regardez autour de vous, Brashen. Vous serrez l'œil du tourbillon de si près que vous ne voyez pas les prodiges qui nous entourent. Nous sommes emportés vers l'apogée dans le temps, le point critique où l'avenir doit prendre l'une ou l'autre direction. Les vives nefs sont en train de s'éveiller à leur véritable passé. Les serpents, qu'on croyait mythiques quand vous étiez enfant, sont maintenant considérés comme naturels. Les serpents parlent à Parangon, Brashen. Et Parangon nous parle. Quand pour la dernière fois les hommes ont-ils admis qu'une autre espèce puisse être intelligente? Que cela signifiera-t-il pour vos enfants et petits-enfants? Vous êtes pris dans un mouvement de grande ampleur qui va culminer avec le changement de cap du monde. » Elle baissa la voix et un sourire effleura ses lèvres. « Pourtant, vous ne voyez que votre séparation avec Althea. La perte d'une compagne peut être le déclic indispensable qui déterminera à l'avenir tous les événements. Vous ne voyez pas à quel point c'est étrange et merveilleux? Que toute l'histoire repose en équilibre sur une affaire de cœur ?» Il regarda cette femme singulière et secoua la tête.
« Ce n'est pas ainsi que je vois les choses, Ambre. Pas du tout. Il s'agit seulement de mon existence, et maintenant que j'ai enfin découvert ce qu'il me faut pour être heureux, je suis disposé à donner ma vie pour l'obtenir. C'est tout. »
Elle sourit. « C'est tout. Vous avez raison. Et c'est tout ce en quoi consiste ce tout. » Brashen prit une respiration tremblante. Ses paroles étaient empreintes de mystère et lourdes de signification.
Il secoua la tête. « Je ne suis qu'un simple marin. »
Mère avait observé intensément les deux interlocuteurs. Elle souriait à présent, d'un sourire empreint à la fois d'une béatitude sereine et d'une terrifiante résignation. Son expression était comme la confirmation des paroles d'Ambre. Brashen se sentit soudain acculé par deux femmes, poussé dans une direction qu'il ignorait. Il fixa les yeux sur Mère.
« Vous connaissez votre fils. Croyez-vous que nous ayons la moindre chance de réussir ?»
Elle eut un sourire ourlé de chagrin. Elle haussa les épaules comme font les vieilles femmes.
Parangon prit la parole.
« Elle pense que vous réussirez. Mais personne ne peut dire aujourd'hui si vous saurez que vous avez réussi ou si le succès sera celui que vous auriez choisi pour vous. Mais elle sait que vous réussirez dans ce que vous êtes destiné à faire. »
Brashen essaya de démêler les paroles du navire, puis il soupira.
« Ne t'y mets pas, toi aussi. »
Malta était à la table du capitaine, ses doigts raidis devant elle.
« C'est une proposition équitable, qui peut profiter à tout le monde. Je ne vois aucune raison que vous la refusiez. »
Elle adressa un sourire charmant au capitaine rouge. Le gouverneur, impassible et silencieux, était à côté d'elle.
Le capitaine paraissait stupéfié. Les autres convives étaient également abasourdis.
Malta avait bien choisi son moment. Le plus difficile avait été de persuader le gouverneur d'agir comme elle l'entendait. Elle l'avait habillé et préparé avec soin, et à force de harcèlement et de supplications, elle l'avait convaincu de venir dîner à la table du capitaine. Elle lui avait fait la leçon, et il s'y était plié, il s'était montré courtois, sans être affable, plus silencieux que loquace. Le repas allait s'achever lorsqu'après s'être éclairci la gorge, il s'était adressé au capitaine.
« Capitaine Rouge, veuillez prêter attention à Malta Vestri qui va vous exposer de ma part un marché. »
Le capitaine, pris de court, n'avait pu qu'acquiescer.
Alors, dans un discours qu'elle avait répété maintes fois devant le petit miroir de sa chambre, elle avait présenté l'offre du gouverneur. Elle avait souligné que l'âme du gouvernorat n'était pas l'abondance d'argent, c'était le pouvoir. Le gouverneur ne proposerait pas d'argent pour sa libération, pas plus qu'il ne solliciterait ses nobles d'en verser. Mais bien plus tôt, il en négocierait lui-même les conditions. Elle les exposa avec concision. La reconnaissance de Kenith comme roi des îles des pirates, la fin des incursions des trafiquants d'esclaves dans les îles et le retrait des vaisseaux de patrouille chalcédiens. Les modalités seraient à discuter plus en détail, bien sûr, avec le roi Kenith. On pourrait peut-être ajouter des accords commerciaux et le pardon pour les exilés qui voudraient revenir à Jamelia. Malta avait parlé à dessein alors que les convives étaient encore nombreux à s'attarder à table. Au cours de ses conversations avec l'équipage, elle avait recueilli les préoccupations qui leur tenaient le plus à cœur. Elle avait deviné qu'ils craignaient de retourner à Partage ou à Lance au Taureau pour trouver leur maison brûlée, qu'ils languissaient après leurs parents et amis restés à Jamelia et qu'ils désiraient se produire encore dans les grands théâtres de la capitale. Elle avait instillé leur souhait dans sa proposition. Le silence du capitaine était éloquent. Il se frotta le menton et parcourut la tablée du regard. Puis il se pencha vers le gouverneur.
« Vous avez raison, je n'ai pensé qu'à l'argent. Mais ceci... »
Il le scruta d'un air presque soupçonneux.
« Vous êtes réellement disposé à nous offrir cette sorte d'arrangement ?»
Le gouverneur s'exprima avec une dignité tranquille.
« Je serais le premier des sots si je laissais Malta dire de telles choses sans y avoir moi-même mûrement réfléchi.
« Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?»
Malta ne l'avait pas préparé à cette question. Elle garda le sourire. Ils étaient convenus qu'il s'en remettrait à elle pour répondre aux questions de ce genre. Néanmoins, elle ne fut pas surprise qu'il passe outre à leur accord sans perdre son calme.
« Parce que je sais tirer une leçon de mes erreurs, »
déclara-t-il. Ces paroles auraient suffi à la frapper de mutisme, mais, en entendant la suite, elle faillit en rester bouche bée.
« Le fait de m'éloigner de Jamelia, de parcourir mon domaine, m'a ouvert les yeux et les oreilles sur des choses que mes conseillers me cachaient ou qu'ils ignoraient eux-mêmes. Ce voyage audacieux a porté ses fruits. L'inconséquence dont j'ai fait preuve en quittant la capitale va rayonner désormais comme une véritable sagesse. »
Il eut un sourire gracieux à l'endroit de tous les convives.
« Mes conseillers et mes nobles ont souvent sous-estimé mon intelligence. C'est une grave erreur de leur part. »
Il les tenait à sa merci. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Il se pencha légèrement en avant. Il tapotait du doigt sur la table à chacune de ses considérations. Malta était fascinée. Elle n'avait jamais vu cet homme-là.
« Je me trouve en compagnie de pirates, d'hommes et de femmes marqués par l'infamie de l'esclavage. Pourtant, vous n'êtes pas tel qu'on vous a décrit. Je ne perçois parmi vous ni bêtise ni ignorance, non plus que de sauvagerie ou de barbarie. J'ai vu les vaisseaux de patrouille dont j'avais négocié les services par traité avec Calcède, mais j'estime qu'ils sont beaucoup trop nombreux dans mes eaux. Ils enfoncent tant ils sont chargés des richesses dont ils se sont emparés. Manifestement, je me suis trompé d'allié. Jamelia est vulnérable à l'attaque des navires calcédiens. Je serai avisé de rechercher de plus sûrs alliés. Ceux qui ont déjà appris à se battre contre les calcédiens ne seraient-ils pas les plus indiqués ?»«
Qui d'autre, en effet ?»
demanda le capitaine rouge à ses hôtes. Il eut un large sourire, puis se reprit et ajouta
« Bien sûr, c'est le roi Kenit qui prendra les décisions finales, mais j'ai idée que nous lui apportons une prise d'un plus grand poids que tout l'or que nous avons jamais partagé avec lui. Nous ne sommes qu'à quelques jours de partage. On va envoyer sur le champ un oiseau à Kenit pour l'avertir. »
Il leva son verre pour porter un toast.
« Au rançon acquitté autrement qu'en argent ou en sang !»
Ils levaient tous leurs verres quand Malta entendit le cri de la vigie.
« Voilà en vue !»
Les hommes échangèrent des regards circonspects. Il fallait éviter les navires calcédiens, maintenant que le bouffon était chargé à plein. On frappa à la porte.
« Entrez !»
fit le capitaine rouge sur un ton contrarié. Il détestait être interrompu durant les repas, et plus encore au cœur d'un moment dramatique. La porte s'ouvrit. Le mousse se tenait dans l'encadrement, les joues roses d'émoi. Il annonça avec un large sourire
« Commandant, nous avons repéré la Vivacia et la Marietta. »
Kenit regardait approcher le petit canot du bouffon avec des sentiments mêlés. Sorcor était venu de la Marietta pour l'occasion. Il était accoutré de plusieurs longueurs de tissu écarlate. Il se tenait juste derrière l'épaule droite de son capitaine. De l'autre côté, le capitaine rouge, dans ses habits bariolés, semblait trop absorbé par son propre triomphe pour s'apercevoir de l'attitude réservée de son chef. Il remettait aux mains du roi Kenit un trophée avec lequel aucune prise des autres capitaines ne pourrait rivaliser. Pour un homme avec ce passé de comédien, c'était l'accomplissement suprême. Désormais, il serait connu comme le capitaine qui avait offert le gouverneur de Jamelia en cadeau au roi Kenit. Le capitaine rouge était d'abord monté à bord de la Vivacia pour annoncer la nouvelle. À présent, Figé dans une pose théâtrale, il se tenait dans le dos de Kenneth qui surveillait la livraison du butin. Celui-ci était à la fois ravi et contrarié. La capture du gouverneur était remarquable et le gain potentiel considérable. Mais cette aubaine tombait aussi à un moment où il avait autre chose en tête. Il coula un regard en biais vers la lys où se tenait Althea Vestrit, qui observait aussi l'approche du petit canot. Jack était à ses côtés. Jack était toujours à ses côtés. Le vent d'hiver faisait voler leurs cheveux, gonfler la jupe éclatante de Jack et colorer leurs joues. Jack était une femme étonnante, grande, blonde et hardie. Mais Althea fascinait Kenneth comme aucune autre ne l'avait jamais fasciné. Depuis qu'elle était sortie de sa cabine et qu'elle était libre d'aller et venir sur le navire, il avait observé avec elle une attitude prudente. Il soutenait devant tout le monde que son rêve affreux était dû au sirop de pavot administré pour soulager la douleur de son dos blessé. Il lui avait présenté publiquement ses excuses, tout en lui rappelant doucement qu'elle s'était plainte d'avoir mal au dos. Ne se souvenait-elle pas d'avoir absorbé le sirop ? Devant ces farouches dénégations, il avait haussé les épaules d'un air d'impuissance.
« C'était quand vous avez dit que vous aimiez la dentelle sur un homme ?»
lui avait-il délicatement suggéré en jouant avec la dentelle à son cou. Il lui avait souri tendrement.
« Cessez vos insinuations !»
avait-elle répliqué d'une voix menaçante. Il avait pris une expression de résignation offensée.
« Il ne fait pas de doute que vous êtes plus sensible au sirop de pavot que vous ne le croyez, »
avait-il suggéré avec courtoisie. Sa chance lui avait donné le pouvoir de la parer comme il convenait. Elle avait été forcée d'accepter les vêtements qu'il avait choisis dans son butin et fait porter dans sa cabine, ainsi que bijoux, parfums et écharpes de couleurs vives. Jack avait usé sans vergogne de cette libéralité, mais Althea avait résisté des jours durant. Même aujourd'hui, elle était vêtue aussi simplement qu'on peut l'être en culotte de soie et gilet de damas. Il plaisait à Kenneth de se dire qu'il lui choisissait ses couleurs, qu'il avait touché les vêtements qui la moulaient. Combien de temps allait-elle rester insensible à ses largesses? Comme un oiseau en cage, elle finirait bien par venir voleter dans sa main. Elle l'évitait autant que possible. Mais Vivacia n'était pas un grand navire. Des menaces de mort et des injures, elle était passée à la haine sourde et au coup d'œil meurtrier. Il soutenait ses regards avec un air préoccupé et peiné, avec une inquiétude polie. Au fond de lui, pétillait une gaieté insolite. Il avait sur elle un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu prévoir, eût-il lui-même créé délibérément la situation. Elle se croyait victime d'un préjudice, mais elle était traitée comme l'accusatrice hystérique d'un homme innocent. Si elle parlait de viol, on l'écoutait avec commisération sans partager son indignation. Même Jack, qui vouait à Kenneth une haine impersonnelle à cause du parangon, prenait les accusations d'Althea non sans quelques réserves. Le manque de soutien à sa cause n'était pas fait assurément pour l'encourager à le tuer. Les hommes d'équipage étaient pour la plupart indifférents à ce qu'il lui avait fait ou non. Après tout, il était le capitaine et les pirates n'avaient jamais été tourmentés à l'excès par la moralité. Certains, ceux qui étaient le plus attachés à Etta, se ressentaient davantage de son absence que de la présence d'Althea. Quelques-uns paraissaient penser qu'il avait d'une certaine façon fait tort à Etta. Ils devinaient que c'était surtout ce qui troublait Yéma. Ils n'en parlaient jamais directement. Mais de temps en temps, Kenneth surprenait le regard perplexe du garçon fixé sur lui. Heureusement pour Yéma, ce n'était pas si fréquent. Il passait le plus clair de son temps à essayer en vain d'établir des relations avec sa tante. Althea ignorait résolument son neveu. Yéma supportait avec douceur ses rebuffades, mais s'arrangeait pour rester dans son voisinage la plupart du temps. Il espérait à l'évidence une réconciliation. Pour l'occuper, Kenneth lui avait confié les tâches quotidiennes du commandement. Il avait l'esprit beaucoup plus vif que Yola. En d'autres circonstances, Kenneth l'aurait promu second. Il avait le sens du commandement. Ce qui agaçait Kenneth, c'est que pas un instant il n'avait été seul avec Althea. Autant qu'il puisse le constater, quand elle n'était pas dans sa chambre, qu'elle partageait avec Jack,
Elle était sur le gaillard d'avant avec la figure de proue. Cela amusait Kenneth car il savait que le navire s'évertuait à la convaincre qu'il ne l'avait pas maltraitée comme elle le prétendait. Plus que toute autre influence, l'attitude de Vivacia semblait ébranler la confiance qu'Althea avait dans ses propres sens. Quand il venait sur le gaillard d'avant chaque soir pour bavarder avec Vivacia, Althea ne s'en allait plus comme une furie avec Jack dans son sillage, mais elle s'éloignait un peu et tendait l'oreille. Elle guettait ses moindres gestes, tâchant de discerner le monstre qu'il était à ses yeux. Mais la façade de Kenneth était à toute épreuve. Alors que le canot approchait, le pirate aperçut non seulement le gouverneur, resplendissant dans son costume d'emprunt, mais aussi sa jeune compagne. Le gouverneur regardait droit devant lui, indifférent en apparence à l'escorte ondulante de serpents, alors que la jeune femme levait les yeux vers le navire, toute pâle. Même à cette distance, ses yeux sombres paraissaient immenses. Le turban saugrenu qu'elle arborait sur la tête était sans doute une nouvelle mode jamélienne. Il se surprit à se demander si cette coiffure irait à Althea. Althea lança un coup d'œil en direction de Yema. Il fixait du regard le canot du bouffon qui luttait pour approcher. Il avait mûri depuis qu'il avait quitté Terrilleville. Quel drôle d'effet ça faisait de le voir de profil! Ils se ressemblaient tellement, elle avait l'impression de se voir en homme. Leur ressemblance rendait d'une certaine façon sa trahison encore plus intolérable. Elle ne pourrait jamais lui pardonner. Un frémissement de reproche s'infiltra en elle à travers la lisse qu'elle serrait. « Je sais, oublie ça !» murmura-t-elle en réponse. Le navire l'avait maintes fois exhortée à se débarrasser de sa colère. Mais sans sa colère, il ne lui resterait que la douleur et le chagrin. La colère était plus facile. La colère pouvait être dirigée vers l'extérieur. Le chagrin rongeait de l'intérieur. Elle ne pouvait laisser passer cette affaire. Le viol était incompréhensible. Il n'obéissait à aucune logique. C'était indiscutable. C'était l'acte d'un fou. Mais le courtois, le subtil capitaine Kenneth n'était rien moins que fou. Alors, que s'était-il passé ? Les images de Devon et de Kefria se mêlaient au souvenir de l'agression. Se pouvait-il qu'il ait raison en invoquant un rêve induit par le sirop de pavot? Le navire avait cherché à l'apaiser en lui suggérant que, peut-être, il s'était agi d'un homme d'équipage. Mais Althea refusait cette explication. Elle se raccrochait à la vérité, comme elle se raccrochait à sa santé mentale, car renoncer à l'une signifiait nier l'autre. À certains égards, pensa-t-elle férocement. « Que Kenneth m'ait ou non violé, peu importe. » Il avait tué Brachen. Il avait coulé Parangon. C'était des raisons suffisantes pour le haïr. Même sa Vivacia bien-aimée lui avait été volée. Elle avait si profondément changé que certaines de ses pensées étaient complètement étrangères à Althea. Elle jugeait d'après sa nature de dragon. À une époque, Althea avait été persuadée qu'elle connaissait intimement son navire. Maintenant, elle entrevoyait fréquemment l'étrangère qui l'habitait. Les valeurs et les préoccupations d'un personnage qui ne participait pas de la nature humaine la déconcertaient souvent. Vivacia souffrait atrocement de la condition des serpents, le soutien qu'elle apportait jadis à la famille Vestrit allait à présent à ses animaux à écailles. Aussi clairement que si la figure de proue s'était exprimée tout haut, Althea perçut sa pensée grâce aux liens qu'elles avaient renoués.
« Tu m'en veux d'être ce que je suis vraiment? Devrais-je faire semblant pour te plaire? Ce serait un mensonge. Tu préférerais chérir un mensonge plutôt que de me voir tel que je suis vraiment? Bien sûr que non, bien sûr que non !»
N'empêche, son navire se détournait d'elle et Althea se sentait seule, à la dérive. Elle se raccrochait à une réalité horrible que les autres prenaient pour un rêve. Comment pouvait-elle l'oublier quand cette réalité revenait sans cesse, comme un cauchemar? Elle avait perdu le compte du nombre de fois où Jack l'avait secouée pour la délivrer de ce rêve où elle s'enfermait. Des songes fallacieux l'entraînaient à se noyer avec Brachen ou à se débattre avec angoisse sur une couchette obscure pour trouver de l'air.
Son jugement se ressentait du manque de sommeil. Elle se sentait fragile, vulnérable.
Elle regrettait l'ancienne Vivacia, réplique et armature de son moi. Elle regrettait Brachen, un homme qu'il avait connu complètement. Elle était désemparée, sans âme sœur à laquelle s'ancrer.
« Cette jeune femme, dans le canot !»
murmura Vivacia.
« Et toi, tu ne sens rien ?»«
Non, je ne sens rien, »
répondit Althea. Elle aurait bien voulu ne rien sentir.
Le cœur sur les lèvres, Malta regardait fixement le garde-corps. Les vagues agressives, les emprunts glacés, le vent qui dépalait le canot et surtout la houle insoucieuse des serpents, tout la menaçait. Les hommes aux mines livides qui tiraient sur les avirons partageaient sa peur des serpents. Elle lisait leur angoisse dans les regards fixes, elle la devinait à leurs muscles contractés. Les animaux qui surgissaient de l'eau à côté du canot la scrutaient de leurs yeux d'or, d'argent ou de bronze. L'un après l'autre, ils rejetaient la tête en arrière en dépassant l'embarcation, trompetant de leurs gueules écarlates et armés de crocs.
Elle n'avait pas senti, depuis sa rencontre avec Tintaglia, une telle charge de conscience chez un animal.
Les regards qu'il fixait sur elle sans ciller étaient trop intelligents, comme s'ils cherchaient à atteindre et à pénétrer son âme, comme s'ils cherchaient à récupérer leurs biens. Terrorisée, elle garda les yeux rivés sur la Vivacia pour éviter de voir ces monstres écailleux.
Elle se concentra pour présenter un visage calme au roi pirate qui les attendait.
La compagnie du bouffon au complet avait employé toute son industrie pour la préparer à l'entrevue. Fort désireux que Kenith apprécie la somptuosité de leur cadeau, les membres de la troupe avaient baigné, habillé et paré le gouverneur avec une élégance qui dépassait celle de sa mise au bal de Terrilville. Les soins dont il avait fait l'objet l'avaient infatué jusqu'à un degré presque insupportable. Malta n'avait pas été oubliée. Un robuste matelot, avec un serpent tatoué près du nez, avait insisté pour la farder. Elle n'avait jamais vu les cosmétiques et instruments qu'il avait apportés dans sa cabine. Un autre lui avait confectionné son turban, tandis qu'un troisième lui avait choisi bijoux, robes et parfums, fruits de leur butin. Malta avait eu le cœur serré de constater comme il l'assistait dans son rôle, décidé qu'ils étaient à rendre leur présent hors de prix. Elle ne laisserait pas se perdre tous leurs efforts. Elle contemplait la Vivacia en essayant de ne pas s'interroger sur le sort de son père, ni sur sa réaction devant la transformation de sa fille. Alors, elle aperçut Yémin, près du garde-corps. N'en croyant pas ses yeux, elle se leva à demi.
« Yémin !»
cria-t-elle comme une folle à son frère. Il la regarda les yeux ronds. Elle entrevit des cheveux dorés, une grande silhouette et son cœur bondit d'espoir. Ce n'était pas son père qui baissait les yeux vers elle, c'était une femme. Le gouverneur lui lança un regard mauvais pour lui reprocher son manque de tenue, mais elle ne s'en soucia pas. Elle parcourut d'un œil anxieux les gens rassemblés sur le pont, espérant contre tout espoir que Kyle Havre allait s'avancer et l'appeler. Mais la main qui se leva soudain et la désigna appartenait sans doute possible à sa tante Althea.
Althea se pencha dangereusement au-dessus de la lisse. Elle agrippa le bras de Jack et montra à grands gestes la jeune fille qui était dans le canot.
« Par le souffle de ça, c'est Malta !»
s'exclama-t-elle.
« C'est impossible !»
dit Yémin qui avait rejoint sa tante et qui regardait en bas.
« En effet, elle ressemble beaucoup à Malta !»
balbutia-t-il d'une voix tremblante.
« Qui est cette Malta ?»
demanda Kenith malgré lui.
« Ma petite sœur, »
répondit Yémin faiblement alors que chaque coup d'aviron la rapprochait d'eux.
« Eh bien, ce serait une coïncidence extraordinaire, mais on le saura bientôt, »
fit Kenith avec désinvolture. Le murmure du vent sembla répéter ses paroles, et il sentit son estomac se serrer et il leva la main, feignant de se lisser les cheveux. Le charme lui parla à l'oreille.
Les coïncidences extraordinaires, ça n'existe pas. Il n'y a que le destin. Ainsi parlent les adeptes de ça. »
Avec la douceur d'un souffle, il ajouta
« Ce n'est pas un coup de chance pour toi, on te livre ta mort. Ça te punira pour avoir abandonné Eta. »
Kenny eut un reniflement de mépris et mit ses mains derrière le dos comme si de rien n'était. Il n'avait pas abandonné la putain, il l'avait simplement écarté provisoirement. Ça ne le punirait pas pour si peu. Ça, ni personne. Et Kenith n'allait pas trembler devant l'occasion formidable qui se présentait à lui. Aux plus hardis, les plus belles prises. Il sourit pour lui-même en se prenant le poignet pour couvrir de l'autre main les yeux et la bouche de l'amulette et l'étouffer sous un flot de dentelle. Alors, Yémin prit la parole, et un frisson de terreur courut le long de l'échine de Kenith. En regardant fixement le canot qui approchait et le visage de la jeune fille tourné vers lui, il dit sur un ton presque rêveur « En ça, il n'y a pas de coïncidence extraordinaire. Il n'y a que le destin. » Malta levait les yeux vers eux, paralysé de stupeur, sans réaction. Qu'est-ce que ça signifiait? Althea s'était-elle jointe à l'équipage pirate au lieu d'aller à la rescousse de la vive nef familiale? Impossible qu'elle ait trahi. Impossible? Et Yémin, alors? Quand ils atteignirent le bord du navire, on hissa le gouverneur en premier. Sous les encouragements des matelots, Malta saisit l'échelle de corde qu'on leur lança. Elle escalada cette espèce d'engin mouillé et rêche qui se balançait méchamment, accompagnée par un des hommes du bouffon. Elle s'efforça de déployer toute son agilité. Les barreaux humides mordaient à travers les gants légers qu'elle portait pour cacher ses mains abîmées. Elle oublia sa laborieuse ascension à la minute même où elle saisit le garde-corps et qu'on l'aida à prendre pied à bord. Une étrange énergie semblait bourdonner en elle. Elle omit de chercher le roi Kenith des yeux, elle ne cherchait que son père. Tout à coup, Yémin était là, qui l'embrassait dans une étreinte virile qui l'étonna de la part de son maigriot de frère. Mais il avait grandi, s'était musclé, et quand il cria «
Malta, c'est ça lui-même qui t'a amené jusqu'à nous !»
Sa voix grave lui rappela un peu celle de son père. Les larmes qui lui vinrent aux yeux la surprirent elle-même, ainsi que la façon dont elle la grippa, éperdument heureuse de sa force et de son accueil. Après une longue étreinte, elle s'aperçut que les bras d'Althea l'entouraient aussi.
« Mais comment se fait-il que tu sois ici ?»
demanda sa tante. Elle n'avait pas envie de répondre tant qu'elle n'aurait pas posé la question essentielle. Elle s'écarta de Yémin et fut étonnée de constater à quel point il avait grandi.
« Et papa ?»
s'enquit-elle dans un souffle. La profonde angoisse qu'elle lut dans ses yeux lui apprit tout.
« Il n'est pas ici. »
dit-il doucement, et elle se garda bien de demander où il était. Il avait disparu, disparu à jamais, et elle avait tout supporté, tout risqué pour rien. Son père était mort. Alors le navire parla, et la voix de Vivacia avait un timbre qu'elle avait déjà entendu quand Tintaglia s'était adressé à elle par l'intermédiaire de la boîte à rêves. Elle reconnut avec terreur le lien de parenté qui l'unissait à la vive nef.
« Bienvenue à toi, ami des dragons !»